Radio Okapi. À la présentation du journal, Pascal Massirika.
Au sommaire de ce journal de National, demain vendredi en RDC, pour honorer la mémoire des victimes du naufrage survenu sur le lac Kivu, ainsi en a décidé ce jeudi le président Félix Tshisekedi Tshilombo lors de sa visite à Mukwija, en territoire de Kale au sud Kivu. Début aujourd'hui à Kinshasa de la vaccination contre la poliomyélite et la rougeole dans 63 zones de santé de la RDC. Cette campagne cible près de 19 millions d'enfants pour la poliomyélite et plus de 2200 enfants pour la rougeole. Grogne des chauffeurs de taxi à Matadi dans le Congo central. Ils dénoncent le refus des autorités de la ville d'augmenter le prix de la course depuis la hausse de celui du carburant. Et puis notre invitée, c'est la directrice du bureau d'études sur l'implication de la femme dans la réalisation des objectifs de développement durable. Eve Bazaïba va nous expliquer comment atteindre ces objectifs. Madame, Messieurs, bonsoir. Le président de la République a décrété demain vendredi un deuil national suite au naufrage d'une pirogue motorisée qui a coûté la vie à une centaine de personnes sur le lac Kivu. Annonce faite ce jeudi lors de son séjour au village de Mukwija en territoire de Kale au sud Kivu. Félix Tshisekedi a également annoncé qu'aucun passager ne devrait désormais naviguer sur le lac Kivu sans bouée de sauvetage. Des précisions avec vous, Blaise Makassi.
Selon la présidence de la République, le président est arrivé au territoire de Kalehe, au village de Mukicha qui a connu le plus grand nombre de personnes disparues dans le naufrage de la pirogue motorisée. S'adressant à la population de Kalehe, le président de la République a annoncé certaines mesures. Désormais, aucun bateau ne devrait naviguer sans débouée de sauvetage pour chaque passager. Le président de la République en a remis 1000 au gouverneur de province. Félix Antoine Tshisekedi a aussi annoncé la construction de 4 ports pour permettre aux grands bateaux d'accoster. À moyen terme, le chef de l'État a annoncé la réhabilitation de la route Goma, Kalehe, Bukavu. Une enquête est diligentée pour faire la lumière sur ce drame qui a endeuillé plus de 140 familles. Rappelons que le président Félix Antoine Tshisekedi est arrivé à Kalehe dans le sud Kivu pour consoler cette population meurtrie après ce naufrage. Selon les premières informations reçues de l'administrateur du territoire Mwamba Chibwabwa, l'embarcation venue de Goma transportait 49 personnes inscrites dans le manifeste et plusieurs marchandises. C'est à l'escale du village Katoto que l'embarcation a été surchargée du ciment, fer à béton, haricots et autres produits lourds. Plusieurs passagers clandestins y ont été embarqués. Au moins 140 personnes manquent à l'appel, selon M. Chibwabwa. Au moment où le chef de l'État a accosté à Kalehe, 10 corps ont été trouvés au village rwandais de Wawa.
En réaction, le secrétaire général de l'ONU exprime sa solidarité avec le gouvernement et le peuple congolais après ce drame. Selon son porte-parole, Antonio Guterres a écrit au président Félix Tshisekedi pour lui exprimer son soutien dans cette dure épreuve. Ouvrons maintenant une page santé avec le coup d'envoi aujourd'hui à Kinshasa des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite couplée à la riposte contre la rougeole dans 63 zones de santé. Cette campagne mobilise plus de 230 000 acteurs du ministère de la Santé et des partenaires. Elle cible près de 19 millions et demi d'enfants âgés de 0 à 59 mois pour la poliomyélite et 2200 enfants âgés de 6 à 59 mois pour la rougeole. Ces ripostes sont appuyées techniquement par les différents partenaires comme l'OMS, l'UNICEF et MSF. Explication Blaise Makassi.
J'exhorte la population kinoise à accueillir avec enthousiasme les prestataires pour que chacun des enfants concernés par cette campagne de vaccination ne puisse rater cette opportunité. Aux vaccinateurs, je leur demande de travailler avec la même abnégation dont ils ont fait montre lors de campagnes précédentes. Le gouvernement provincial de Kinshasa, soucié du bon déroulement de cette activité, leur sera reconnaissant. Et le bon Dieu ne manquera pas de récompenser le noble service que chacun aura rendu à la population kinoise.
Sentez encore la rougeole s'étend ces jours-ci dans le Kassai. En février et mars dernier, le nombre de zones de santé touchées par cette épidémie est passé de 5 à 11 sur les 18 que compte cette province. Le bilan qui a été dressé par le gouverneur fait état de 177 décès sur 4018 cas documentés. Marc Manyanga annonce également le début de la vaccination et plaide pour l'obtention urgente des moyens en vue de lutter contre cette épidémie. Il est joint par Joël Bofengo.
C'était d'abord 5 zones de santé, maintenant nous sommes pratiquement à 11. La campagne proprement dite commence le 19. Donc c'est un campagne mixte en fait polio et rougeole hein, qui va concerner d'abord les 5 zones qui ont été notifiées avant. Hein. Il y a quand même une faible couverture vaccinale jusqu'à présent. Et on les comprend très bien parce que il y a tous ces enfants qui n'ont pas été vaccinés de tous les phénomènes qu'a menacé ça pour. Et vous savez qu'on a eu beaucoup de refoulés d'Angola. Du 1er octobre jusqu'à pratiquement la fin de l'année, on était autour de 325 000 qui ont traversé la frontière. Il y avait beaucoup d'enfants non vaccinés. Et donc, il faut beaucoup de moyens. Il faut ajouter aussi les cas de malnutrition. Il y a des actions qui sont menées, mais il faut davantage les croître. Hein.
Nous ne doutons pas un seul instant que le gouvernement central puisse davantage s'impliquer et nous demandons aussi à nos partenaires traditionnels qui nous ont toujours assistés qu'ils puissent voler à notre secours.
On enchaîne avec la politique. À Bounia, la cour d'appel a proclamé définitivement Jean Bamanissa Saïdi comme gouverneur de l'Ituri et Martin Tchalo Doudou son adjoint. L'arrêt a été rendu ce jeudi matin au cours d'une audience qui a suscité une liesse populaire dans la ville. Le compte-rendu de Martial Kizabiamungu.
La cour d'appel de l'Ituri programmera la liste de M. Jean Bamanissa Saïdi, Tchalo Doudou Martin élu au premier tour.
C'est par ces mots que la cour d'appel de l'Ituri s'est prononcée sur les contentieux électoraux entre les candidats Maléré du ticket FCC Sami Adoubango contre la Commission électorale nationale indépendante CENI et Jean Bamanissa Saïdi. La cour dans son arrêt a déclaré que la requête du regroupement Alliance pour l'avenir est irrécevable mais non fondée. Elle a motivé son arrêt par une jurisprudence de la Cour suprême de justice qui s'était prononcée en cette matière de la majorité absolue. Les avocats du gouverneur Bamanissa salit cette décision et parle d'une victoire du peuple. Maître Bouino Nzombe, un des membres de ce conseil.
Je suis satisfait parce que la Cour a fait référence à une jurisprudence que nous avons évoquée. Cette Cour, elle est à féliciter.
Le cas Adoubango s'inclut de la décision de la Cour, mais dit s'est réservé le droit de faire appel de cette décision auprès du Conseil d'État. Précision avec son proche, Maître Antoine Denaya.
La Cour est allée dans le sens de la CENI, devoir aller devant le Conseil d'État.
Notons que Jean Bamanissa Saïdi devient le deuxième gouverneur élu de la province de l'Ituri après Jefferson Abdallah Penembaka. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi le début ici à Kinshasa du dépôt des candidatures aux différents postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La coalition FCC-CACH aligne Jeannine Mabunda comme candidate président et Jean-Marc Kabound Akabound, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, quand bien même l'opposition parlementaire ne participera pas à la course. Toujours au sein de la majorité, le député du Palou et allié Henri Thomas Lokondoyoka a aussi déposé sa candidature au poste de président comme indépendant. Et puis le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a publié aujourd'hui à Kinshasa son rapport du monitoring des médias pendant le processus électoral en RDC. Ce rapport porte sur le déroulement de la campagne électorale dans les provinces. Le président du CESAC affirme que la campagne dans plusieurs médias du pays, sauf quelques exceptions, s'était caractérisée par des incitations à la haine et à la diffamation. Tito Ndoumbi ajoute que même le traitement de l'information n'a pas été équilibré. Un reportage de Jacques-Yves Molima.
Si dans les Bandundu, la campagne a été faite en dehors des espaces et des délais consacrés, truffée des propos à caractère injurieux et diffamatoire, tout comme dans le Congo central, dans l'Équateur, l'émission à téléphone ouvert a constitué le fait répréhensible majeur constaté. Dans les deux Kassai, les attaques personnelles, des menaces et des injures d'un côté, de l'autre l'incitation à la haine tribale et religieuse ont émaillé la campagne. À Kinshasa, c'était plutôt l'occasion de propager dans des médias des discours de haine et de menaces. Aussi à s'hasarder à diffuser des résultats des urnes. Dans les Nord et Sud Kivu et le Maniema, le monitoring fait état de culte des personnalités, d'un manque d'équilibre dans la couverture des candidats présidents et de la propagande déguisée. Seule bonne note, le Katanga. Le CESAC n'a relevé aucun fait répréhensible. Et Tito Ndombi de dire...
Tout ce qu'on a relevé dans ce rapport, tous ces propos incendiaires, tous ces appels à la haine, engagent la responsabilité des médias, engagent la responsabilité des journalistes, parce qu'ils se sont montrés complices de tous ces acteurs politiques-là.
D'où quelques sanctions, notamment des suspensions des journalistes allant de 30 à 90 jours, des suspensions des émissions à téléphone ouvert, des mises en demeure prononcées contre les journalistes et les médias, et des embargos à l'endroit des acteurs politiques, pour ne citer que cela.
L'actualité en plus bref, il n'y a pas de taxi qui circule depuis ce jeudi à Matadi, dans le Congo central, et pour cause, les chauffeurs dénoncent les refus des autorités de la ville d'augmenter le prix de la course depuis la hausse de celui du carburant chez les revendeurs. Ces chauffeurs ont brûlé ce matin des pneus dans plusieurs ronds-points, dont celui de Kianvu. La mairie de Matadi a engagé tout de suite des pourparlers avec les conducteurs des taxis.
L'invité.
À Kisangani, le bureau d'études sur l'implication de la femme dans la réalisation des objectifs de développement durable a organisé une conférence à l'intention des femmes leaders de la société civile dans cette partie du pays. Elle avait pour thème la femme dans le processus de transformation de son environnement. Sa directrice Eve Bazaïba explique comment au micro de Dorcas Kankou.
Eve Bazaïba, bonjour.
Bonjour.
Madame, dites-nous, quelles sont les motivations qui vous ont poussé à prendre cette initiative?
Premièrement, c'est l'information, parce que les femmes doivent être informées. Ça fait aujourd'hui 4 ans qu'à travers le monde, il y a déjà des évaluations des 4 ans d'implication des ODD. Je suis convaincu, deuxièmement, que lorsque les femmes s'impliquent, l'espoir de développement de la Tchopo est permis et il est possible d'atteindre des ODD. Il n'y a pas que l'État pour ça. Les ODD, il y en a 17. Il faudrait que les femmes d'abord aient l'information. Qu'est-ce qui se décide à travers le monde? C'est tout un programme de développement. Lutter contre la faim, contre la pauvreté. Comment on les fait? Lutter contre le réchauffement climatique, la problématique de l'environnement, la question de l'éducation, la question de l'emploi, de l'habitat décent. Les femmes ne sont pas informées. La santé, par exemple, leur dire que l'automédication fait partie des causes de décès. Elles ne sont pas informées. Elles vont s'acheter les médicaments elles-mêmes, elles avalent. Elles donnent aux enfants. Donc, l'objectif qui m'a poursuivi de le faire, c'est l'information, solliciter l'implication de la femme pour que nous puissions les atteindre.
Et alors, qu'est-ce que vous attendez de cette femme de la Tchopo?
J'attends d'elle son implication. Et j'ai senti que depuis qu'elle est informée, beaucoup d'entre elles, à travers leur structure, commencent à recadrer leur positionnement.
Oui, madame, c'est une des résolutions qui découle de cette conférence. Vous allez vous engager avec ces femmes. Concrètement, comment vous allez faire? Parce qu'on vous a entendu, je n'ai pas d'école à construire. Concrètement, comment vous allez vous y prendre avec ces femmes aujourd'hui pour lutter contre l'analphabétisme de femmes?
Moi-même, je suis le bureau d'études pour l'implication des femmes à atteindre les ODD. Je vais travailler avec les structures existantes. Au sein des églises, par exemple, il existe des structures de formation, donc d'alphabétisation. Et puis les structures des femmes de la société civile, les femmes de confession religieuse aussi, les femmes paysannes, les femmes maraîchères, parmi lesquelles il y a des analphabètes. Nous allons les recruter, collaborer avec elles, demander à celles qui acceptent, parce qu'il faut commencer par accepter, être disponible, et nous allons les prendre en charge personnellement à travers le bureau. Nous allons commencer par une équipe de 50 femmes qu'on va introduire dans ces écoles. On va les inscrire, nous allons les suivre, nous allons payer leur formation.
Un petit rappel, madame, est-ce que vous pourriez nous parler de ces ODD?
À travers le monde, au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, avant 2000, les États ont compris que le monde évolue difficilement. Il y a d'un côté les pays extrêmement riches et d'autres pays extrêmement pauvres. Comment faire en sorte que nous avancions vers les objectifs du millénaire pour le développement? Il y en avait 5 de 2000 à 2015 sur les questions de santé, accès à l'éducation, à l'emploi, aux infrastructures, etc. Mais il y a beaucoup d'États qui ont eu des subventions mais qui n'ont pas atteint ces objectifs. Maintenant, il y a eu évaluation de ces États. De 2015 à 2030, le monde a adopté 17 objectifs. Lutter contre la faim, lutter contre la pauvreté. Vous savez que le Congo est un pays pauvre, très endetté, alors que nous avons des ressources incommensurables. Il suffit seulement de les transformer en richesses pour impacter sur le vécu quotidien des Congolais et aller vers le développement. Chaque État est obligé d'introduire ça dans leur programme de développement, dans leur budget, augmenter le budget lié à l'éducation, par exemple, augmenter le budget pour les soins de santé. Prenons le cas des femmes. À travers le monde, beaucoup d'États ont déjà obtenu la gratuité des consultations prénatales. Beaucoup d'États ont obtenu la gratuité des césariennes, par exemple. Beaucoup d'États ont obtenu la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Ça se trouve même dans notre constitution. Mais on n'applique pas parce qu'il n'y a pas un budget décent pour l'éducation. Par rapport aux villes, on détruit tout ce qu'il y a comme bidonville, on construit un habitat décent, là où il y a l'eau, l'accès à l'électricité.
Eve Bazaïba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.